Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Hélène Dédard au micro. Nous éditions du vendredi 24 août 2018. Avec moi en studio, et plutôt à la régie, j'ai Jean-François Roy. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour. Et je vais souhaiter une belle journée de vacances à ma collègue habituelle, Francine Forget, et à mon autre collègue, Catherine Brunet, qui reviendra probablement cet automne. Enfin, nous verrons. Pour le moment, je vais vous entretenir ce matin de plusieurs sujets, mais tous des sujets qui tournent autour de le vieillissement, les proches aidants. Enfin, je vais vous... j'ai des réflexions sur l'âge de la vieillesse. Je vais vous en faire part au fil de notre bel heure que nous allons passer ensemble. Je vous reviens dans un petit moment. Alors voilà, je vais débuter par un texte que j'ai trouvé dans vraiment.ca. Ça s'intitule ainsi « La silencieuse tragédie affectant les enfants d'aujourd'hui et ce que nous et vous, grands-parents, pourrions faire à cet effet ». C'est un texte de Victoria Prodet. Ça commence ainsi. « Je sais que pas mal d'entre nous ne voudront pas entendre ce que je dis dans cet article, mais vos enfants ont vraiment besoin que vous entendiez ce message. » Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, veuillez suivre mes recommandations à la fin de l'article. Une fois que vous verrez des changements positifs dans la vie de votre enfant, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Il existe une silencieuse tragédie qui est en train de se développer chez nous et elle concerne nos bijoux les plus précieux, nos enfants. Travaillant avec des centaines d'enfants et de familles en tant que thérapeute professionnelle, j'ai pu assister à cette tragédie sous nos yeux. Nos enfants sont dans un état émotionnel dévastateur. Parlez-en aux enseignants et aux professionnels travaillant dans ce domaine depuis 15 ans. Vous entendrez certainement des inquiétudes semblables aux miennes. De plus, au cours des 15 dernières années, des chercheurs ont publié des statistiques alarmantes déclarant une nette augmentation et constante de la maladie mentale chez les enfants, atteignant maintenant des proportions épidémiques. Un enfant sur cinq a des problèmes de santé mentale. Une augmentation de 43 % du TDAH. Augmentation de 37 % de la dépression chez les adolescents. Et le plus triste, augmentation de 200 % de suicide chez les enfants de 10 à 14 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Des gens vont dire, ils sont tout simplement nés comme ça, c'est pas la bonne réponse. C'est la faute du système scolaire, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Aussi douloureux qu'il soit possible de l'admettre, dans de nombreux cas, nous, les parents, les grands-parents, sommes la réponse à beaucoup de problèmes chez nos enfants. Comme je l'ai vu dans ma pratique, le moment où les parents changent le point de vue sur la parentalité, les enfants changent. Alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants d'aujourd'hui sont privés de fondements d'une enfance saine tels que des parents disponibles, des limites et des directives, des responsabilités, une alimentation équilibrée ainsi qu'un sommeil adéquat, du mouvement, du plein air, des jeux créatifs, des interactions sociales, des opportunités surtout pour des temps libres. Au lieu de cela, nos enfants ont des parents distraits, numériquement parlant, un style parental indulgent qui laisse les enfants diriger le monde, d'un sens du droit plutôt que de la responsabilité, un sommeil inadéquat, une alimentation plus déséquilibrée, un mode de vie sédentaire, surtout à l'intérieur de la maison, d'une stimulation sans fin et d'une absence, surtout, de moments calmes. Quelqu'un pourrait-il s'imaginer qu'il soit possible d'élever des enfants sainement dans un environnement aussi malsain? Bien sûr que non. Comme nous venons de le voir, les résultats sont dévastateurs. Nos enfants paient la perte d'une enfance bien équilibrée et d'un bien-être émotionnel. Comment arranger cela? Si nous souhaitons que nos enfants deviennent des individus heureux et en bonne santé, nous devons nous réveiller et revenir aux bases. C'est toujours possible. Définissez des limites et n'oubliez pas que vous êtes le parent de votre enfant. Vous n'êtes pas son ami. Offrez aux enfants un style de vie bien équilibré et rempli de ce que les enfants ont besoin, pas seulement de ce qu'ils veulent. N'ayez donc pas peur de dire non à vos enfants si ce qu'ils veulent n'est pas ce dont ils ont réellement besoin. Fournissez des aliments nutritifs et surtout limitez les collations. Passez au moins une heure par jour dans un espace vert. Faire du vélo, la randonnée, de la pêche, regarder les oiseaux, les insectes. Avoir tous les jours un dîner de famille sans technologie. Jouer un jeu d'échecs par jour ou lister des jeux de famille. Impliquez votre enfant dans une corvée par jour, c'est-à-dire plier la lessive, nettoyer les jouets, ranger les vêtements, déballer les courses, mettre la table. Mettez en œuvre une routine de sommeil cohérente pour vous assurer que votre enfant dorme suffisamment dans une chambre sans technologie. Enseignez la responsabilité et l'indépendance. Ne protégez-les pas trop des petits échecs. Cela permet de les entraîner à avoir les compétences nécessaires pour relever les défis de la vie. Ne rangez pas le sac à dos de votre enfant, ne portez pas son sac à dos, n'amenez pas son déjeuner ou son agenda oublié à l'école et n'épluchez pas une banane pour un enfant de 5 ans. Enseignez-leur les compétences nécessaires plutôt que de tout faire pour eux. Enseignez une gratification retardée et offrez des opportunités contre l'ennui, car l'ennui est le moment où la créativité se réveille. Ne vous sentez pas responsable d'être un divertissement pour votre enfant. N'utilisez pas la technologie comme une méthode contre l'ennui. Surtout pas. Évitez également d'utiliser la technologie pendant les repas, en voiture, au resto, dans les centres commerciaux. Utilisez ces moments comme des opportunités pour former leur cerveau à fonctionner sous le mode ennui. Aidez-les à créer une trousse de premiers soins contre cet ennui avec des idées d'activités pour ces moments. Soyez émotionnellement disponible pour vous connecter avec les enfants et vos petits-enfants, et leur enseigner l'autorégulation ainsi que les compétences sociales. Éteignez votre téléphone jusqu'à ce que les enfants soient au lit pour éviter les distractions numériques. Devenez l'entraîneur émotionnel de votre enfant. Enseignez-leur donc à reconnaître et à faire face à la frustration et beaucoup aussi à la colère. Enseignez l'accueil, la prise de décision, le partage, l'empathie, les manières à table, la capacité à communiquer. Tout un beau programme. Connectez-vous émotionnellement. Souriez, câlinez, embrassez-les, chatouillez-les, lisez, dansez, sautez, rampez avec vous, avec les enfants, les petits-enfants. Nous devons faire certains changements dans la vie et dans leur vie avant que cette génération entière d'enfants devienne sous médicaments. Il n'est pas encore trop tard, mais bientôt, nous avons tous peur que ça le sera. Ce merveilleux texte nous provient de l'auteur Victoria Prodi, qui est une thérapeute de l'enfance, parue dans vraiment.ca au mois d'août 2018. Nous voici de retour après cette courte pause. Et maintenant, j'aimerais bien vous entretenir sur un sujet qui nous touche encore de très près, des proches aidants pour la vie. J'ai trouvé ce texte dans la revue Virage et par l'excellente Sophie Gagnon. Je vous en parle. Lorsque France Boisclair et Roch Boutillier se sont envolés pour le sud l'hiver dernier, c'était la première fois qu'ils partaient une semaine en amoureux depuis 23 années. Soit l'âge de leur fils Alexandre, lourdement handicapé. Comme des centaines d'autres parents au Québec, ils sont les plus invisibles et plus oubliés des proches aidants, ceux qu'ils seront toute leur vie. En effet, le rôle de proche aidant est souvent associé au soutien à une personne atteinte de cancer ou en phase terminale ou à un aîné en perte d'autonomie qui déclinera sur une période de quelques mois ou années. Être proche aidant de son propre enfant, lourdement handicapé pendant des décennies, est une toute autre histoire, faite de haut, de bas, de résilience, d'adaptation et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Les difficultés liées à la conciliation travail-famille et l'épuisement sont le lot de bien des proches aidants. Toutefois, l'isolement guette plus particulièrement les parents d'enfants handicapés d'âge majeur. Souvent, avec le temps, ils coupent leurs activités, n'osent plus demander de l'aide à leur entourage et s'enlisent dans leur réalité. À cet égard, les Boisclair-Boutillier ont su éviter le piège en respectant scrupuleusement la règle des trois temps instaurée par Roch et à laquelle il tient mordicus, c'est-à-dire prévoir du temps pour la famille, prévoir du temps pour le couple et la dernière, prévoir du temps pour soi. Ils font notamment garder Alexandre tous les vendredis soirs pour aller au resto, par exemple, en couple. Pour Anne-Marie Messier, aussi, les escapades amoureuses se font rares. Au fait, il y en a eu deux en 28 ans. Mélomane, elle compte des soirées au concert avec son époux pour faire le vide des tracas et le plein d'énergie. Elle en a bien besoin, puisque la loterie de la génétique a fait en sorte qu'elle se retrouve proche aidante de sa sœur Hélène, 57 ans, vivant avec une déficience intellectuelle, et de sa fille, Laure, 28 ans, elle aussi déficiente intellectuelle et atteinte du syndrome de Costello, une maladie extrêmement rare. Même ces courtes sorties en couple ne sont pas le lot de tous les proches aidants au long cours. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont des femmes chefs de famille, monoparentales. Leur union n'ayant pas résisté à la réalité de la vie au quotidien, avec un enfant non autonome nécessitant une foule de soins particuliers. Celles qui choisissent de s'occuper de leur enfant à temps plein se retrouvent souvent, ou trop souvent, prestataires d'aide sociale. Est-ce qu'il y a du répit? L'accès du soutien autre que financier est aussi un enjeu majeur pour les parents d'un enfant handicapé qui n'ont pas échappé à la vague d'austérité gouvernementale. Les heures hebdomadaires de soins auxquelles ces familles ont droit ont en effet eu tendance à fondre comme neige au soleil ces dernières années. En ce qui concerne le soutien aux proches aidants, le répit demeure le besoin le plus criant, tout type d'aidants confondus. Il est très difficile de trouver quelqu'un de confiance pour s'occuper d'Alexandre, afin qu'on puisse profiter de notre temps d'arrêt, car c'est complexe de prendre soin de notre fils, ajoute François Boisclair. Son époux et elle pourront heureusement compter sur la générosité de la sœur de Roch, Joanne, pour des vacances bien méritées à l'hiver 2018, qu'ils ont réservées près d'un an à l'avance pour se donner du courage dans des moments difficiles. Les déficients intellectuels sont les parents pauvres du système de santé, déplore-t-elle, qui est devenue proche aidante principale de sa sœur au décès de leurs parents. Je dois continuer à me battre pour obtenir de l'accompagnement et de l'encadrement pour ma sœur et ma fille, dont l'autonomie est limitée, dit Anne-Marie Messier. Et le logement est un véritable casse-tête. Après différentes tentatives, ma sœur souhaitait vivre seule. J'ai fait plus de 150 appels avant de lui trouver un logement convenant à ses besoins et subventionné une première pour elle. Ce rôle exigeant, qui use et fatigue, et a aussi ses côtés positifs. On s'épanouit par le biais de cette relation privilégiée, car on fait une différence pour un être cher, résume Joanne Audet. Ma sœur Hélène m'a déjà dit qu'elle était d'accord à ce que je l'adopte, illustre tendrement Anne-Marie Messier, 62 ans. Ce qui n'empêche pas les parents héros, tels que France Boisclair et Roch Boutillier, d'être parfois au bout du rouleau et de jongler avec l'idée de ne plus garder leur enfant à la maison. Alexandre irait où? Vu le temps d'attente très long pour une place en ressources intermédiaires, il se retrouverait dans un CHSLD. On aurait des remords et on serait tellement inquiet parce qu'il ne parle pas et est sans défense. Il est bien mieux chez nous, fait-il valoir. La maison des Boutilliers à Laval est en effet complètement adaptée et visiblement, Alexandre est heureux dans cette famille qui sourit à la vie malgré tout. Et puis, il y a cette lancinante question qui hante tout parent d'un enfant lourdement handicapé. Que va-t-il lui arriver? Si je tombe gravement malade ou si je n'y suis plus? Le sujet mouille le regard des proches aidants, dévoués et inspirants rencontrés par virage. On n'a pas le choix, il faut lâcher prise sur l'inquiétude qui a mis cette philosophie en pratique lorsqu'elle a combattu elle-même un sérieux cancer. D'ici là, les parents d'un enfant lourdement handicapé savent que les années à venir, tout comme la retraite, ne seront pas faites de voyages et de repos, ce qui ne les empêche pas de choisir encore et encore le rôle de proche aidant tout en rêvant un soutien digne de leur dévouement. En chiffres, 25 % de la population est proche aidant à divers degrés. 71 % des proches aidants ont plus de 45 ans et 60 % des proches aidants occupent aussi un emploi. Et 80 % du soutien à domicile est assumé par les proches aidants. Voici un bilan, un texte très, très touchant, « Proches aidants pour la vie » dans la revue Virage, écrit par Sophie Gagnon en novembre 2017.
Partirons partirons seuls. Nous partirons. Nous partirons seuls, loin. Pendant que nos parents dorment, nous prendrons le chemin. Nous prendrons notre enfance, un peu d'eau et de pain. Nous partirons. Nous partirons seuls. Nous partirons. Nous partirons seuls, loin. Pendant que nos parents dorment, nous prendrons le chemin. Nous prendrons notre enfance, un peu d'eau.
Jean Cormier, qu'est-ce qu'on ferait sans lui?
Ah, faudrait le réinventer.
Oui, c'est ça. Alors, cette chanson s'appelait « Complot d'enfants ». C'est tiré de son magnifique album « Les grandes artères » qui est sorti en 2015. Et Hélène, vous aurez compris que j'avais choisi cette chanson qui était tout à fait en lien avec vos deux sujets.
Et tout à fait judicieux. Merci beaucoup.
Je vous laisse poursuivre.
Et voilà. Alors, c'est une très belle pause musicale. J'ai trouvé ici un très beau texte et dans un site internet qui s'appelle Beau Texte et c'est l'éloge du vieux. Et c'est écrit par l'anthropologue Serge Bouchard. Je vous le lis, il est très beau. Être vieux, c'est sérieux. Dans notre monde, je parle de l'Occident, tout est nouveau, tout change. Ce qui est jeune est bon, le changement est nouveau, la nouveauté est changeante. Et qu'on soit humain ou grippin, il n'est pas recommandé de vieillir. Le monde est né d'hier. Il commence aujourd'hui et renaîtra demain. Nous parlons naturellement de prévenir les marques du temps. Anti-tâches, anti-rouille, anti-ride, anti-vieillesse. Sans anti, pas d'espoir. Vieux schnook, vieux de la vieille, vieux machin, vieille chouette. La mode est à tout, sauf à l'ancien. Si la vieillesse est un naufrage, alors je donne donc ma langue au chat. La vie ne serait finalement que ce grand voyage de l'absurde où nous traversons périls et océans, déserts et continents, pour mieux glisser ridicule et impotent sur la pente irréversible de la fatalité. Il est vrai que l'on meurt. Il est encore plus vrai que nous nous amenuisions, avec le temps, rapport au fonctionnement et aux apparences de notre corps. Mais ce serait bien un comble de laisser aux émotions faciles le soin de traiter de la chose. Et pourtant, la vieillesse en a frappé plus d'un depuis la jeunesse de l'espèce. Des études récentes révèlent que lorsque nous ne mourons pas, nous vieillissons. J'en connais décédé un peu tôt qui aurait tout donné pour vieillir en paix. Toutefois, sur le sujet du vieux, je ne sais pas de société plus mal barrée que la nôtre. Si nous ne sommes pas incompétents, alors nous sommes de mauvaise foi. Nous faisons tout pour dramatiser la vieillesse, tout pour la rapetisser, la rendre déplorable et la disqualifier. Oui, il se cache du petit dans notre regard moderne sur le vieux. Petit vieux, petite vieille, qui font des petits dodos, des petits pipis. Ils prennent des petites marches, des petites pilules. Ils reçoivent de la petite visite, petit-fils, petite-fille. Ils mangent comme des petits oiseaux. Et puis ils meurent comme des petits poulets. La sensibilité de la durée n'existe tout simplement pas. La valeur du temps s'annule depuis que dans notre esprit, tout ce qui dure perd des plumes. Il pleurera à chaque ride, il maudira ses cheveux gris, il paniquera au premier mal de dos, premier signe d'arthrite, celui pour qui la beauté se résume tout entière au look de la jeunesse. Nul ne sait plus assumer ses pertes de mémoire et plus encore ne sait boiter. Personne ne se vante de son grand âge. La durée n'en impose plus. Nous ne préparons pas notre vieillissement. Nous préparons notre retraite comme on prépare ses vacances. Mais nul n'envisage réellement sa vieillesse. Nous la nions plutôt. Nous la craignons et nous renouvelons les mots pour cacher nos frayeurs. Âge d'or, troisième âge et autres inepties. Comme si le mot vieillard était déjà trop vieux. Je ne dis pas que vieillir est agréable. Mais on meurt à tous les âges, on est malade en été comme en hiver, on déprime à n'importe quel moment de sa vie. Les crétins se retrouvent fréquemment et partout dans la colonne de la vie, et j'ai connu trop de vieux et de vieilles qui rebondissaient mieux que certains jeunes prématurément épuisés pour m'inquiéter sérieusement du temps qui passe. Oui, je crains la maladie, je crains le gagaïsme, je crains le scandale de la souffrance et de la perte, mais je ne crains pas mon âge et tous les âges que j'atteindrai. Je me propose d'embrasser chacune des années qui me seront données. Nous devrions respecter nos vieux parce qu'ils sont vieux. Un point, c'est tout. Les vieux sont des pierres et des monuments, des arbres tutélaires, des armes sculptées par le temps. Les vieux sont des témoins principaux. Ils représentent le temps passé et ce sont eux l'histoire. À 80 ans, ma mère est si belle qu'elle donne à tous les jours un nouveau sens à la notion de dignité. J'espère ma vieillesse, comme j'ai espéré toute ma vie. J'aurai la peau comme une écorce très ancienne, profondément ridée. Je serai honorable, mais je serai armée. Je forcerai les jeunes à m'écouter, à écouter mes platitudes et mes jongleries. Égard au premier qui me proposera une petite collation, un petit voyage en autobus, voire un petit n'importe quoi, tous les vieux devraient être armés d'un sourire. Alors, c'était un très beau texte de Serge Bouchard, anthropologue, que j'ai puisé à même un site qui s'appelle Les Beaux Textes, et c'était L'éloge du vieux. Merci beaucoup pour cette note musicale, ce beau piano. J'adore le piano. Merci Jean-François. Voilà, je suis de retour, Hélène Bédard au micro. Avant la pause de la demi-heure, je vais vous entretenir d'un texte. J'ai encore une fois, décidément, c'est ma revue chouchou, Le Virage. Et ça s'intitule « Vieillir avec un trouble alimentaire ». Ça a paru au mois de mai dernier, toujours par l'excellente journaliste Sophie Gagnon. On associe les troubles alimentaires à la jeunesse. Pourquoi? C'est le lot d'un nombre croissant, pourtant, de personnes de 50 ans et plus. Ils entraînent un trouble alimentaire depuis des décennies et en ont développé un peu plus tard dans leur vie, souvent à la suite de régimes amaigrissants à répétition. Mais pour ces anorexiques, boulimiques et hyperphagiques au long cours, il y a quand même de l'espoir. Beaucoup de gens portent en eux une prédisposition génétique aux troubles alimentaires. Cette vulnérabilité sera activée ou non, selon certains facteurs environnementaux ou événements déclencheurs. À cet effet, les restrictions caloriques sont la voie principale vers les troubles alimentaires. Voici un portrait étonnant. Souvent perçus comme des caprices, les troubles alimentaires sont, dans les faits, de réels problèmes de santé mentale qui ont peu à voir avec la nourriture en tant que telle, s'y greffent de nombreux problèmes d'ordre physique s'aggravant avec le temps qui vont, de l'ostéoporose chez les anorexiques, aux troubles digestifs chez les boulimiques et à l'obésité chez les hyperphagiques, eux qui vivent des orgies alimentaires sans par la suite se faire vomir ni utiliser d'autres comportements compensatoires. C'est d'ailleurs l'hyperphagie boulimique qui est le plus susceptible de se déclencher à l'âge adulte, souvent lorsque de multiples régimes ont érodé tout contrôle sur l'appétit et que les multiples restrictions ont entraîné autant d'excès. Fait à souligner, ce trouble touche presque autant les hommes que les femmes, alors que l'anorexie et la boulimie, bien davantage les filles et les femmes. On trouve toutefois beaucoup plus de gens qui vivent une rechute ou qui en souffrent de la maladie depuis longtemps que de nouveaux cas de troubles alimentaires. Dans ce contexte, on le devine, l'isolement est un dénominateur commun des personnes qui se battent avec un trouble alimentaire. Le premier pas est donc vers leur rétablissement est donc de briser cet isolement, notamment en utilisant soit des lignes d'écoute ou de référence ou les services en ligne destinés aux personnes qui vivent avec un trouble alimentaire et aux proches. Les groupes de soutien sont tout aussi éduqués pour prendre conscience qu'on n'est pas seul à livrer ce combat, ni même après une énième chute, un phénomène fréquent qui fait partie intégrante du rétablissement. Bien des jeunes sont, soit majoritairement ces patients, le psychologue Howard Stengard suit assez souvent des personnes de 50, 60 et même 70 ans qui sont souvent aux prises avec un trouble alimentaire. Bien d'autres encore renoncent à chercher de l'aide auprès de nombreuses rechutes. À ces âges, plusieurs personnes sont convaincues que c'est peine perdue de tenter de régler leur trouble alors que ce n'est franchement pas le cas. Quel que soit notre âge, on ne doit pas accepter d'avoir un trouble alimentaire et ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Dans les faits, plus on suit les gens longtemps, plus les possibilités de s'en sortir sont grandes. Les commentaires sur l'apparence et la minceur devraient d'ailleurs être proscrits pour ne pas nourrir l'obsession d'une image corporelle qui ronge déjà les personnes vivant avec un trouble alimentaire. De cette façon, toute la société a un examen de conscience à faire sur l'importance qu'elle accorde à la beauté, à la minceur et à la jeunesse éternelle, qui prennent une part démesurée dans les conversations et causent le malheur d'un nombre croissant de personnes. C'était un très beau texte qui est paru dans la revue Virage, c'était « Vieillir avec un trouble alimentaire » par l'excellente journaliste Sophie Gagnon. Nous allons vous quitter pour une courte pause. Ne partez pas, restez avec nous. Nous vous revions pour la suite de l'émission immédiatement après.
Vous écoutez les voix de service.
En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon est emporté notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté. Les souvenirs, on peut les refaire sur un tapis de fougères. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de main pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Ne souris pas, ça peut nous arriver. Nous ne serions pas les premiers. Regarde l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort. Quand le passé tombe au fond de l'eau, l'amour repart à zéro. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de main pour te guider, j'aurai toujours mon cœur.
mais c'est que ça a bercé mon enfance, cette chanson. Ça vous évoque un souvenir de votre côté, Hélène?
Et la mienne aussi, très beau.
Ben oui, 1977 à l'origine, c'était par, vous vous en rappelez? Cordier, voilà. Et oui. Cette fois, c'était interprété par Amélie Veil.
Moi, ça a plutôt bercé plus mon début d'adolescence.
Mais ah oui, on a un petit écart d'âge, vous et moi.
Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Alors voilà, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Les Voix de Service Magazine, Hélène Bédard au micro. Je vais poursuivre avec une interview qui a été faite toujours par la revue Virage au mois de mai dernier. Et l'entrevue a été faite avec M. Marc Hervieux, et qui a dit ceci, qu'il se sentait bien sur son X. C'est un texte de Michel Lemieux. Je vous le lis. Trois filles, deux tournées, un nouvel album et un mariage à venir. La vie semble sourire à Marc Hervieux, portrait d'un homme heureux à l'aube de ses 50 ans. Le chanteur nous présente nos chansons, un opus plutôt irrésistible. Dans cet album piano-voix, Marc Hervieux revisite des indémodables de la chanson française et québécoise, de même que des pièces classiques. Au total, ce sont 18 coups de cœur suggérés par le public. « Nous avons mis tout notre cœur à le faire », soutient-il. « J'avais déjà une liste bien garnie de pièces qui m'étaient demandées. J'ai ressorti, j'ai demandé au public sur les réseaux sociaux ce qu'il avait envie d'entendre. On m'a donc proposé 230 titres. J'ai reçu des centaines de messages. Puis j'ai eu l'idée d'inviter les gens au studio Piccolo lors de l'enregistrement de l'album comme s'ils assistaient à un spectacle. » Marc Hervieux propose deux tournées, l'une piano-voix et l'autre avec 8 musiciens. Ça permet de faire de grandes et de petites salles, dit-il. Il a d'ailleurs été en spectacle dans le cadre provincial de la FADOC en juin dernier à Stansted, une salle où j'ai chanté pour la première fois et que j'ai aimé découvrir. Il y a bientôt 10 ans, malgré une carrière de ténor bien remplie et jalonnée de succès, Marc Hervieux a choisi de quitter l'opéra. Avant 2009, je voyageais partout à travers le monde. Depuis, j'ai concentré ma carrière ici. Je n'ai jamais regretté mon choix. C'est plus simple à gérer sur le plan familial. Il ajoute, « Quand on choisit de faire ce métier, on ne peut pas imposer notre façon de vivre aux gens qui nous entourent. Lorsque les filles étaient petites, c'était facile, elles voyageaient avec nous. À partir du moment où chacun a sa propre vie, c'est un peu plus difficile. J'avais plusieurs projets en tête que je n'arrivais pas à mettre de l'avant parce que j'avais la chance d'avoir une carrière qui fonctionnait bien à l'opéra. Pendant tout ce temps, Caro a mis sa carrière à côté à cause de la mienne et parce qu'il fallait bien prendre soin de nos enfants. Dès que les filles ont été sur les bancs d'école, Caro est retournée aux études. Elle est orthophoniste depuis l'été dernier et j'en suis très heureux pour elle. Avec ses trois filles, 11, 13 et 17 ans, la vie intime du chanteur occupe une place de choix. Nous faisons beaucoup d'activités en famille, voyages, sports nautiques, chalets. Dans la vie, j'ai bâti des maisons, j'adore ça. Les chalets que nous avons eus, c'est moi qui les ai rénovés. Ça me permet d'oublier tout le reste. J'ai toujours géré ma carrière, je suis le producteur, l'homme d'affaires et l'artiste. Pour moi, ça marche. Les filles sont incroyablement ouvertes sur la culture et l'art. Elles en consomment en masse, participent à des comédies à l'école, jouent au piano. Nous chantons beaucoup en famille. Chez nous, la maison est à air ouverte au rez-de-chaussée. Le piano à queue est en plein centre et nous sommes toujours autour. L'année dernière, dans un contexte grandiose, Marc Hervieux a fait la grande demande à sa compagne des 21 dernières années. Le mariage se déroulera en septembre prochain, dans un mois. C'est vraiment la pression des filles qui nous a convaincus. C'était devenu un running gag. Que nous soyons devant la Tour Eiffel ou un beau paysage, les filles me rappelaient toujours que c'était le bon moment pour faire ma demande. Et à chaque fois, je répondais que c'était pas assez big. Puis, l'idée lui est venue de le faire au Centre Bell devant 12 000 personnes. Heureusement qu'elle a dit oui. Le mariage, pour nous, c'est surtout pour organiser un gros party, célébrer avec les filles, dire aux gens que nous nous sommes choisis. Si nous nous étions mariés il y a 21 ans, nos filles auraient manqué ça. Maintenant, Loïane, Chloé et Maxime Rose font donc partie du processus. Marc Hervieux atteindra la belle cinquantaine en 2019. C'est avec une très grande sérénité qu'il aborde cette étape. Les temps ont changé. Lorsque j'étais enfant, les adultes semblaient vieillir plus rapidement. Je me sens encore comme à 25 ans. Très humblement, je considère avoir réussi. Je fais ce que j'aime dans la vie, j'ai des projets qui fonctionnent, mais je me demande encore ce que je vais faire lorsque je serai grand, dit-il en souriant. J'ai plusieurs intérêts, je suis curieux. À chacun son énergie. J'ai la chance d'en avoir beaucoup. Et chacun a sa personnalité. Mes filles sont très différentes. En tant que père, je me suis remis beaucoup en question. J'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre la même chose des autres. Et pour la suite des choses, le chanteur songe-t-il à se retirer un jour ou l'autre? Doivent-ils renoncer à leur passion en vieillissant? Pas nécessairement, nous dit-il. J'ai été chanceux, on m'a enseigné une technique vocale très solide. Quand on chante comme il faut, sans pousser notre voix outre mesure et qu'on choisit le bon répertoire, on peut chanter longtemps. À titre d'exemple, Placido Domingo chante encore sur scène et il a 80 ans. Si je suis encore capable de faire des spectacles à cet âge, je serai bien fier, je me sens sur mon X. Si tout semble réussir au chanteur, il nuance avec sagesse. Comme tout le monde, je vis des hauts et des bas. Comme tout le monde, je préfère montrer les hauts que les bas. Les moments difficiles, c'est ce qui nous fait grandir et devenir des êtres humains meilleurs. C'était donc une entrevue, un très beau texte aussi, écrit par Michel Lemieux. Donc, une très belle entrevue de Marc Hervieux, réalisée en mai dernier dans la revue Virage. Alors, nous revoici en studio. Je vais vous lire une très, très brève trouvaille. Je trouve ça tellement intéressant. C'est court, c'est bref. Les enfants d'une école prennent les choses en main pour gérer eux-mêmes le harcèlement. Alors voilà, c'est une superbe initiative, pensez-vous. Alors, cette école a pris les grands moyens pour contrer le harcèlement entre les élèves, entre ses murs. Les plus grands élèves de l'école travaillent à régler les problèmes de ceux des plus petits. Pour cela, un comité est formé d'élèves plus âgés de l'école. Une boîte est installée dans l'école pour que les élèves vivent des problèmes, harcèlement, intimidation, qui dépose une lettre dans laquelle il explique ce qu'il vit et ce qui le préoccupe. Par la suite, le comité se réunit et fait la lecture des lettres déposées par ses élèves. Ensemble, ils discutent et essaient de trouver des solutions. Au départ, le projet avait été lancé en 2002 par Christiane Depp à Evillard en Allemagne. Le projet a même été récompensé par l'UNICEF en 2004. En 2018, 120 écoles en Suisse ont installé un bureau d'idées où les jeunes peuvent se réunir pour discuter des problématiques vécues dans leur école. L'idée a même traversé l'océan et se trouve dans certaines écoles du Mexique. La Grèce veut également mettre en pratique cette façon de faire. Gérer eux-mêmes leur propre conflit, n'est-ce pas une très bonne idée? Cela peut les conscientiser sur les sentiments d'autrui, leur permettre d'aider leur prochain. Avec tous les problèmes d'intimidation que nous vivons présentement dans notre école, dans nos différentes écoles, la solution, en fait, viendrait peut-être tout simplement de nos enfants. J'ai hâte de trouver la même situation dans une de nos écoles et je vous en ferai part. C'était une toute petite nouvelle brève parue dans vraiment.ca et le site, c'est Toutes les vérités. Et nous revoilà. Je vais vous parler du bénévolat et des bénévoles. Le texte s'intitule « Bénévolez-vous » de Sophie Gagnon, l'excellente Sophie Gagnon, toujours dans la revue Virage. Le verbe « bénévoler » n'existe pas, mais il faut néanmoins le conjuguer chacun à sa manière. Comment? Notamment en visitant la nouvelle plateforme jebénévole.ca. La Fédération des centres d'action bénévole du Québec a choisi le terme « Je bénévole, tu bénévole, conjuguons notre bénévolat ». Le but, promouvoir l'action bénévole comme voie à privilégier afin que la justice, l'entraide et la solidarité deviennent des valeurs dominantes dans notre société. Dans une société en mutation profonde, le bénévolat se métamorphose aussi. Pour mieux répondre à ces considérations contemporaines, la Fédération a mis en ligne récemment la plateforme que j'ai citée, jebénévole.ca, destinée autant aux personnes qui désirent donner du temps dans leur communauté qu'aux organismes qui cherchent à recruter des bénévoles. Ainsi, les aspirants bénévoles n'ont plus à effectuer des recherches par eux-mêmes afin de trouver l'organisme par l'entremise duquel ils pourront donner au suivant. Par le biais de cette plateforme gratuite et conviviale, ils peuvent consulter toutes les offres disponibles près de leur lieu de résidence, puis sélectionner un organisme voué à une cause qui leur tient à cœur et dont les besoins correspondent autant à leurs aspirations qu'à leur disponibilité. Ensuite, il est possible de télécharger l'offre, de la transmettre à un ami ou de poser sa candidature, tout ça en ligne. La pertinence d'un tel outil de jumelage entre organismes recruteurs et citoyens qui veulent faire une différence ne fait aucun doute. En effet, une étude du comité consultatif de la Fédération révèle que 86 % des organismes sont à court de bénévoles. Ceux qui le préfèrent peuvent aussi contacter le centre d'action bénévole le plus près de chez eux, parmi les 115 ayant pignon sur rue partout au Québec, pour trouver une association de bénévolat qui leur convient. Il ne fait aucun doute que le bénévolat fait une différence pour les organismes, causes et individus qui en profitent. Le bénévole reçoit beaucoup en échange. Au niveau social, il découvre de nouveaux intérêts, rencontre des gens avec qui il partage des valeurs, est un exemple positif pour ses enfants et ses petits-enfants. Il en retire une plus grande estime de soi, une confiance accrue et améliore ses compétences sociales. Parmi et pour participer à des projets altruistes, a aussi une incidence directe sur la santé, puisque l'action bénévole favorise le bien-être, le bonheur, tout en contribuant à diminuer le stress, l'isolement, l'anxiété, le taux de dépression, le sentiment d'inutilité. Après 50 ans, alors qu'on a davantage de temps disponible et que notre réseau social tend à s'effriter, le bénévolat semble une voie naturelle à emprunter. En effet, tout en contribuant à un monde meilleur pour les générations futures, on y trouve valorisation et épanouissement. Des félicitations sont de mise aux 50 ans et plus à toutes les autres personnes qui donnent leur temps pour autrui. Par ailleurs, si vous souhaitez faire du bénévolat, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action, n'est-il pas temps de conjuguer à votre manière le verbe « je bénévole » Un texte de Sophie Gagnon, paru dans la revue Virage en avril 2018. Alors voilà, j'ai à nouveau Hélène Bédard au micro. J'aimerais vous apporter une autre réflexion, une très belle réflexion sur l'âge de la vieillesse. C'est écrit par Jérôme Pélissier et ça paru dans la revue, juste un moment, la revue La guerre des âges. Et voilà, je vais vous en faire lecture. On parle ici de retraite et vieillesse. S'il fut un temps où il était relativement pertinent d'associer l'arrêt de l'activité professionnelle avec une forme d'entrée dans la vieillesse, cela n'a plus de sens pour la majorité de nos contemporains. D'autant moins que ces dernières années, à mesure que l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en emploi diminue. Il est ainsi de plus en plus fréquent de voir des personnes dont l'activité professionnelle cesse autour de 55 ans, ouvrant une période de retraite pouvant durer plus de 30 ans, soit plus longue souvent que la période d'activité. Les liens entre âge de la retraite et vieillesse, nous l'avons évoqué, sont néanmoins complexes dès lors qu'on affine le regard et qu'on cesse de penser par généralité. Certains métiers, en effet, provoquent des vieillissements physiologiques précoces. Certains métiers à tâches répétitives usent les facultés mentales qu'ils ne permettent pas d'employer. Bref, attention, tenir compte de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé pour modifier l'âge de retraite, sans doute, mais le faire sans tenir compte de la réalité des métiers que nous venons d'évoquer, ce serait socialement criminel. L'urgence se situe peut-être davantage actuellement dans la nécessité de rompre avec les âges couperets qui obligent certaines personnes souhaitant encore travailler à cesser de le faire du jour au lendemain. Ces limites-là seront de plus en plus perçues, sans doute à juste titre, comme des formes de discrimination. Quoi qu'il en soit, si tous les retraités ne sont pas vieux, parce que toutes les vieilles personnes sont à la retraite, ce qui ne signifie pas qu'elles aient cessé toute activité bénévolat, familiale, ce qui ne signifie pas non plus que la vieillesse contraigne à la retraite. Dans de nombreux métiers où les personnes peuvent travailler jusqu'au moment où elles le souhaitent, il n'est pas rare de voir des vieilles personnes continuer leur activité professionnelle, artistes, politiques, professions libérales, ce qui n'est pas sans lien avec la manière dont elles sont perçues. Tant qu'elles travaillent, ces vieilles personnes souvent ne sont pas considérées comme de vieilles personnes. Alors, quels sont donc les critères sociaux de la vieillesse? Plus globalement, le sentiment d'être vieux est surtout influencé par le sentiment d'utilité sociale, lequel est associé à l'activité rémunérée, mais pas seulement. Ce sont aussi les activités bénévoles, les activités intrafamiliales, aide aux enfants, aide aux petits-enfants par exemple, aide aux devoirs, aide aux parents âgés ou de parents qui ont des handicaps, toute forme d'entraide. Du coup, ce sentiment d'utilité sociale peut être altéré par le passage à la retraite, mais également par le passage de la place de grands-parents, attention, à celle d'arrière-grands-parents. Par la fin de la participation active à la vie d'une association, certaines associations sont aussi agistes que certaines entreprises y considèrent négativement les retraités. Aux côtés du sentiment d'utilité sociale, on peut observer, sans chercher l'exhaustivité, certains éléments qui, socialement, familialement, participent au sentiment d'être vieux. La situation d'arrière-grands-parents. La figure du grand-parent ou de la grand-mère est de moins en moins liée à la vieillesse. La plupart des grands-parents le sont pour la première fois vers à peu près 50 ans. Le fait d'être arrière-grands-parents, en revanche, est parfois vécu comme un signe de vieillesse. Moins pour une question d'âge que de position et de rôle dans la famille. La place auprès des jeunes enfants est souvent occupée par les jeunes grands-parents, reléguant ainsi les arrière-grands-parents. Le veuvage. S'il ne peut lui non plus être totalement associé à la vieillesse, plus de 40 % des femmes sont veuves avant 74 ans. Il n'en reste pas moins qu'ils participent souvent au sentiment d'être vieux. La perte d'être proche, de frères, de sœurs, d'amis de la même génération, à partir d'âge avancé, c'est-à-dire au-delà de 90 ans, plus nous avançons en âge, plus nous devenons des survivants. Le fait d'être orphelin de ses deux parents est également important, moins pour une question d'âge. Beaucoup de personnes qui perdent leur mère autour de 65-70 ans ne se sentent pas vieilles que pour le mouvement générationnel. Même s'il peut y avoir deux générations de personnes âgées dans une même famille, nous avons souvent le sentiment de n'être pas vieux tant que nos parents sont encore en vie. Ils nous précèdent dans la vieillesse et nous protègent de la mort. C'était une réflexion sur l'âge de la vieillesse écrite par Jérôme Pélissier dans la revue La Guerre des âges. Alors, nous poursuivons sur le même thème de ma revue Chouchou qui est Virage. Une autre très belle entrevue réalisée avec Maude Guérin et un texte écrit par Michel Lemieux. Ça s'intitule « Maude et ses hommes ». Gâtée dans sa carrière et dans sa vie professionnelle, Maude Guérin coule dans le changement sans résistance. Au cœur de cette sérénité face au temps qui passe, des relations épanouissantes qu'elle entretient avec son fils, son père et son amoureux, le poète Christian Vézina. Alors qu'elle a les deux pieds dans la cinquantaine, Maude Guérin ne se plaint pas du temps qui passe. C'est bien connu, la période a ses forces, mais elle oblige aussi à quelques renoncements, notamment à exister dans le regard des hommes. Physiquement, bien des changements surviennent, admet-elle. Le regard des hommes change aussi. C'est cela que je trouve le plus difficile, être devenu invisible. Je ne comprends pas cette distance. Pardon. Je suis une séductrice, j'aimais ce regard, j'appréciais les « Allô Bella » que j'entendais lorsque je me promenais. Ça me remontait le moral. Aujourd'hui, si ça m'arrive, c'est qu'on m'a reconnue. En contrepartie, elle croit que l'un des avantages de cet âge, c'est de ne plus être dans la comparaison. Dans mon métier, quand on est plus plus jeune, il y a beaucoup de filles et beaucoup de compétitions. À 50 ans, notre chemin est tracé, notre style est établi et la comparaison n'a plus sa raison d'être. Je ne suis ni compétitive ni jalouse. J'ai toujours été heureuse pour mes consoeurs qui décrochaient des rôles. J'ai jamais été une jeune première. Ce n'était pas mon casting. Mais j'ai joué des pulpeuses, Marilyn Monroe, Carmen. Tout ce que j'aime. J'ai été gâtée par le métier. C'est évident que, dans ce cas, c'est plus facile de vieillir en harmonie. On n'échappe pas au vieillissement. Comme le dit ma mère, c'est la seule justice au monde. Le fait d'être passionnément en amour m'aide aussi à passer à travers la cinquantaine. Depuis 8 ans, ce couple qu'elle forme avec le poète Christian Vézina s'inscrit dans une grande modernité. C'est chacun chez soi. Tiens donc, ces deux créateurs ont besoin d'espace, d'oxygène, de liberté. Être poète, ça demande du courage, dit-elle admirative. Même si Christian a quitté Québec pour s'installer à Montréal, nous vivons chacun de notre côté. Il a son fils à temps plein. Sa fille vit avec elle à Québec. J'ai un fils de 15 ans, Edmond. Nous ne voulons rien imposer à nos enfants. Si on était un jeune couple et qu'on songeait à avoir des enfants, ce serait différent. Si un jour nous nous rapprochons, ce sera peut-être pour habiter l'un au-dessus de l'autre ou pour avoir une maison de campagne ensemble. Christian et moi avons besoin de notre espace et ça, nous le savons. Ma chambre est mon univers. Mon lit est mon lieu de travail. J'y relis mes textes et j'écoute les chansons de Pauline Julien. Pendant ce temps, mon fils est au sous-sol, son antre de paix. Je ne fais rien subir à personne et je crois que c'est mieux comme cela. Avec mon adolescent, la comédienne a tissé une relation forte. C'est avec fierté qu'elle le regarde s'épanouir. C'est un être absolument charmant. Il a obtenu le prix Méritas pour son comportement et son attitude en classe. C'est un être très particulier, libre, ouvert et sensible. Il danse toujours chez Louise Lapierre, où il est boursier 3. Il fait de la vidéo, c'est aussi un gamer. Il n'est pas attiré par les parties. Avec un adolescent, je crois qu'il faut continuer à être présent tout en laissant beaucoup de liberté. Lorsque j'entends des parents me parler du terrible tout, je leur suggère de réserver leur énergie pour faire face à l'adolescence. Proche de son père, Maud s'amuse gentiment. Des longs messages qu'il lui laisse dans sa boîte bocale. Il m'appelle Minou, il me raconte toutes sortes d'anecdotes. Mon père, c'est un personnage, il est vraiment très drôle. Il est toujours fier de dire aux gens qu'il est mon père et de me rapporter qu'un tel lui a parlé de moi. Il est encore étonné que les gens connaissent sa fille. Sa mère vit quelque chose de difficile, elle est atteinte de démence. Cette année, c'était la première fois qu'elle venait me voir au théâtre. Elle habite en haut de chez ma sœur, qui prend tous ses repas avec elle, fort heureusement. Sans ma sœur, ma mère serait placée. C'est difficile de la voir dépérir, surtout parce que je n'ai pas eu une grande relation avec elle. Je sais qu'il n'y a plus de retour possible. Elle partagera la scène avec son amoureux au mois d'août, avec Christian Vézina aux correspondances d'Hitman. Il se demandait qu'à brûler un spectacle hommage à Pauline Julien et Gérald Godin, qu'elle voudrait bien balader aux quatre coins du Québec. Mon chum lit des textes de Godin et moi j'interprète les chansons de Julien. Nous travaillons souvent en collaboration, lui et moi. Nous nous sommes connus au travail et c'est une partie importante de nos vies. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une relation qui comporte autant d'amitié, de travail et de créativité. À certains égards, nous ressemblons à Godin et Julien qui formaient un couple dans la création. Une très belle entrevue de Maud Guérin réalisée par Michel Lemieux dans la revue Virage au mois de mars dernier. Voilà qui termine notre émission d'aujourd'hui. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Jean-François, de m'avoir assisté à la régie.
Bien, merci, Hélène. C'est un plaisir. J'ai bien aimé vos sujets. C'est intéressant.
Merci et je vous remercie. Et je souhaite vous retrouver vendredi prochain, le 31 août. Alors, portez-vous bien d'ici là.